Bonjour et bienvenue. Nous sommes le samedi 12 avril 2008 et il est exactement midi.
Éphémère est une radio libre, sans pub et indépendante, fondée à Toulouse en 1981. Notre mission, vous faire partager nos passions, nos coups de cœur et ce qui va vraiment faire bouger votre monde.
FMR s'invite dans vos oreilles aujourd'hui avec, pour commencer, maintenant le supplément week-end avec l'actu BD, télévision et kiosque et plein d'autres choses, suivi de ça c'est du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. Et ensuite, c'est très simple, je n'ai pas le programme, donc on va sauter directement à l'essentiel à 19h, c'est l'heure de l'apéro avec Happy Hour, 20h, la CTO Experience, c'est l'électro bien barré, 21h30, c'est du Two Step avec Nuff Love et à 23h, du live avec le potager. Bonjour et bienvenue chers amis auditeurs, c'est peut-être une des dernières fois que vous entendez Fred Rabonne, on dit c'est pas pareil, chose que trash, en tout cas on risque peut-être de changer de musique courant du mois de mai. En attendant, eh ben c'est Xavier avec vous, tout seul pour l'instant, du sport va arriver et Thomas n'est pas là, donc c'est un supplément week-end, et mon 153 déjà un petit peu plus cool et tranquille, calme. Which today's advanced recording technology places within your record. Listen. On en profite, Danky Groove, Wake a Jumper, c'est extrait de l'album A, qui était sorti au Japon en 95, qui aurait dû sortir, il était sorti en Japon en 97, il était prévu qu'il sorte en France, et finalement il n'est jamais sorti, c'est bien dommage, c'est un exemplaire promo rarissime, profitez-en, vous allez en prendre plein la gueule.
Red for tulip is swearing red. Not blue, blue, not yellow, not orange. Swearing red.
En introduction d'un Danky Grew, Wicked Jumper. On va commencer avec tranquillement par une grosse revue de presse du sport qui lui râle parce qu'il dit ouais il y a pas la presse et tout etc. Bah oui ben bah, moi je la reçois à la maison, c'est plus rapide. Avec pour commencer ben le Satyricon. Qui donc est arrivé en kiosque. Je rappelle pour ceux qui nous écoutent sur le podcast en dehors de Toulouse, dans le nord, dans le sud, à l'est, à l'ouest, allez savoir où, que le Satyricon c'est un peu l'équivalent du Canard Enchaîné, mais d'une manière locale, c'est-à-dire que cela traite bien évidemment des affaires politiques toulousaines essentiellement, quoique ça parle un petit peu de la région aussi, et on peut le comparer en fait à d'autres revues du même genre, comme Cuverville par exemple à Toulon. Donc c'est un journal qui est disponible en kiosque, qui fait environ 8 pages, qui s'intéresse, je vais dire, ben c'est le journal, loup journal des mémés qui aiment la castagne, et ben donc il se moque un petit peu de la droite un petit peu centriste qui maintenant s'est fait sortir, ou de la gauche un petit peu institutionnalisée, notamment du Conseil général. Bref, c'est un gros coup de pied, je vais dire, dans l'aine des médias, de la médiacratie locale, puisque qu'est-ce qu'il y a en télé locale, on a FR3 Toulouse. On a Télé Toulouse qui est plutôt très orienté à droite et qui appartient plus, qui a appartenu à une époque plus ou moins à une époque, bon. Ça a été à la Générale des Eaux et ensuite là je sais plus qui c'est qui les a, je crois que c'est la Gardère ou je sais plus. Il y a la Dépêche qui
y a TF1 aussi hein.
Oui, exact. Il y a le patron, de la Dépêche du Midi, l'unique presse locale qui en fait est président du Parti Radical de Gauche. Bref, tout est extrêmement politisé, même le Satyricon, faut avouer, mais n'empêche, eh ben, ils mettent un coup de pied dedans. C'est leur 13 ans, très exactement, aujourd'hui, dans ce numéro 45, donc, qui est sorti 2€ en kiosque, on y retrouve des dessinateurs que l'on a plaisir, effectivement, de retrouver. Excusez-moi, je meuble le temps que je retrouve ma page, voilà, avec Barbouze, Rabi, Bar, Boer, Besseron et Jeff. Besseron, entre autres, c'est l'un des piliers des requins marteaux, où on parle évidemment de Poivre d'Arvor, Olivier Poivre d'Arvor, à propos donc du Marathon des mots, de la mairie qui s'est faite sortir après près de 30 ans d'une mairie de droite, avec une vision sur les coulisses qui était l'endroit où l'UMP avait prévu de faire la fête parce qu'ils allaient gagner les élections, c'était sûr, c'était gagné, et plein d'autres choses. Un numéro spécial sur les magazines, vous savez, les suppléments spéciaux dans les hebdomadaires, parfois dans les quotidiens, sur votre ville. Donc le Nouvel Obs, l'Express, Le Monde, Le Point, tous ces magazines, tous ces hebdomadaires qui sortent des numéros spéciaux, hein, spécial Toulouse, et on apprend comment ça marche, surtout que un, les stagiaires sont complètement bénévoles, mais secondo, on leur apprend l'éthique du journalisme, c'est-à-dire que c'est à eux-mêmes aussi à récolter, à faire la régie publicitaire. On aime bien à partir de là, on rigole bien sur l'éthique journalistique, mais aussi plein d'autres choses. Après, bon, je ne vais pas vous lasser plus longtemps, mais en tout cas, le Satyricon, ceux qui nous écoutent sur Radio FMR, ils ont déjà eu un contenu en long, en large, en travers, et ceux qui n'habitent pas à Toulouse ne sont peut-être pas intéressés. Voilà. Si vous êtes à Toulouse, moi je l'ai acheté comme d'hab, c'est plus qu'une habitude, c'est une vraie crise de fou rire, donc ça tombe plutôt bien, hein. On va solder l'air de l'après-baudis. Un magazine qui revient, c'est L'Écho des Savanes, numéro 267, est donc enfin arrivé en kiosque, donc numéro d'avril 2008, après la disparition en janvier 2007. Je crois qu'il a même pas été distribué le numéro de janvier 2007. Et ben donc là, on a un nouveau numéro. 3,50€ en kiosque, et cette fois-ci, et ben désormais ils sont publiés dans le même groupe. C'est-à-dire qu'avant, L'Écho des Savanes est un magazine qui a été créé en 1972 par Claire Bretechet et Gottlieb et d'autres. Ensuite, ça a été plus ou moins racheté par Hachette Philippe Aki. D'un autre côté, il y avait la maison d'édition L'Écho des Savanes qui a été revendu à Albin Michel. Bref, les deux étaient séparés. L'Écho des Savanes, c'était juste une revue de bande dessinée avec du Manara dedans, plutôt la BD de cul, je vais dire. Et à côté de cela, des filles à forte poitrine. Et maintenant, ça y est. Donc il y a eu L'Écho des Savanes, Albin Michel. Tout le catalogue a été cédé au groupe Glénat, qui a monté un éditeur à part qui s'appelle Le Vent des Savanes. Et ils ont aussi repris le magazine à Hachette Philippe Aki, propriétaire du titre. Ça s'appelle toujours L'Écho des Savanes. Et cette fois-ci, si jamais il y a une grosse connerie dedans, et c'est Jacques Glénat, directeur de publication, qui prend. Première chose qui change, moins de chiennes en chaleur. Il n'y a plus de filles déshabillées en couverture, ni même franchement à l'intérieur en photo. Ça y est, ça n'existe plus. C'est fini de ce côté-là. Ce qui fait que c'est un vrai magazine de bande dessinée et d'actualité.
Là, les bollocks, parce que au départ, à l'origine, L'Écho des Savanes, c'était quand même la bande dessinée qu'on voulait un petit peu adulte, c'est-à-dire on pouvait aborder des sujets qu'on n'aborderait pas dans les autres périodiques qui sortaient à l'époque, à savoir les gros institutionnels comme Pilote, comme Tintin et tous les autres, qui étaient plus pour les adolescents, pour les enfants. Là, à L'Écho des Savanes, le flux glacial et ses autres sorties, c'était vraiment plus pour les adultes, on va dire, vu les sujets traités.
Abordait
la dope, le sexe, enfin tout, de manière assez libre.
Le magazine qui est tel qu'il a existé dans la décennie 90, c'était plus une revue porno qu'autre chose.
Oui, non, là je te parle de L'Écho des Savanes.
Tu parles de l'origine.
Au début, les années 70.
Mais après, ça a été un petit peu, ça a été la longue descente qu'avec du cul, des pubs pour des numéros de cul, et puis voilà quoi.
Oui, tout à fait.
Donc tu m'excuseras, mais maintenant on a. Qu'une page de ça.
Ouais. Tiens, tu veux discuter avec moi ? Appelle-moi maintenant. Oh. Appelle-moi maintenant.
Oui.
Appelle-moi maintenant. Oh. Appelle-moi maintenant.
Oui.
Appelle-moi maintenant.
Ça y est, maintenant il n'y a plus qu'une page et tout le reste, c'est de la bande dessinée. Mais c'est pas que la bande dessinée exclusivement de cul. Entre nous, il y a des choses qui sont pas mal. Il y a aussi une partie. Ils ont réembauché les journalistes qui étaient dedans et qui font quand même un boulot qui est pas trop mal, avec un dossier sur les humoristes qui est en couverture, qui est illustré par Villemain en couverture. Ça, c'est le grand retour de la bande dessinée bien présente, quoi. On en parlera tout à l'heure. C'est assez étonnant. On y retrouve des dessinateurs à l'intérieur. C'est Tronché qui est le rédacteur en chef. Tronché, après tout, pourquoi pas. En tout cas, en bande dessinée, on retrouve des dessins de presse de Sharp, de J.O. J.O. qui a été dans le Satyricon à une époque. Mais on trouve aussi des dessinateurs comme Volinsky, René Hautement, Pochep, dont on a parlé d'une bande dessinée qu'il a sortie en janvier dernier aux éditions 7ème Choc, donc la maison d'édition de Luc Besson. Jules, qui vient de sortir un album aux éditions Vendée Savane. Hélène Brunner est une salope. Yvan Brun, assez étonnant, un jeune auteur absolument étonnant, avec un truc sur Love Story où il massacre littéralement. Il le fait de manière muette, c'est très intéressant. Fab Caro, Pedroza, Sibyline, Planchon, Brumaire, Salma, Ralph Koning, Rosé, Camille qui sort un album chez Delcourt, Adonis, Pochep. Bref, ça n'est pas exclusivement limité. Pochep, j'ai déjà dit en fait. C'est pas exclusivement limité à une maison d'édition. C'est beaucoup plus ouvert que ça et c'est très intéressant, justement de ce côté-là. Après, contenu journalistique, il y a un peu tout. Il y a sur dénonce-ton-voisin.com, le ministère de la dénonciation. C'est des trucs qui sont un petit peu récupérés du net, mais à côté de cela, il y a des trucs beaucoup plus intéressants. Voilà, c'est l'interruption de cette interruption musicale, c'est qu'il a fallu que je me batte pour que je le récupère des mains de Du Sport. Il y a un dossier donc sur les humoristes à la radio, à la télévision. C'est quand même assez étonnant. Il y a carrément Paul Lederman qui dit, qui laisse sous-entendre qu'il y a une surproduction de comiques. C'est n'importe quoi. Il dit, le public aujourd'hui a une envie boulimique de rire, ce qui peut encourager la facilité et laisser croire à certains qu'ils ont du talent. Il y a une charge sur le stand-up comedy en disant le stand-up comedy, c'est ni plus ni moins que l'industrie, c'est un rire toutes les 15 secondes. On ne pourra plus jamais faire du déproche après ça. Ou déproche quand même, on en parle beaucoup actuellement de ces soi-disant héritiers parce que ça fait 20 ans qu'il a disparu. Mais à réécouter les chroniques de la haine ordinaire, tribunal des flagrants délires, il était capable de mettre en scène, raconter une histoire pendant 3 minutes où on ne rigole pas, on se laisse porter par l'histoire et à la fin il y a une chute qui est absolument hilarante justement parce qu'elle prenait le temps d'être placée. Ben ça maintenant ça n'est plus possible et c'est devenu un gros business. Alors il y a un chiffre qu'il n'y a pas, c'est la fréquentation de Bienvenue chez les Ch'tis. Je tiens à signaler d'ailleurs qu'il y a une banderole de la honte actuellement en studio que la régie a laissé passer tout à l'heure pendant la diffusion du match. Punkophile, demi-chômeur, cons en plus. Vomi, c'est un ch'ti. Eh ben, je vois que l'équipe de Vomi et Rognon sont nommément cités. Ça range pas cette radio de punk. Bref, ça démonte littéralement. On dit que on ne peut plus mettre deux comiques ensemble dans une même émission de télé en invité, sinon ça tourne au pugilat. Eh ben, là, on en est carrément à des histoires de gros fric. Par exemple, faut savoir que je crois qu'ils sont à près de 8 millions de... Non, c'est 8 ou 12 millions de spectateurs pour Bienvenue chez les Ch'tis, je ne sais plus.
15, ils en sont à 15 là.
15 millions.
Ils ont battu le record de la grande vadrouille.
Ça, je sais, ouais. Donc, on n'est pas encore dans le top 5. Les gains annuels moyens de Laurent Gérard en 2006, 3,6 millions. Francis Weber après a proposé 3,5 millions à Jamel Debbouze pour le rôle de François Pignon dans La Doublure, rôle qui est finalement allé à Gad Elmaleh. Et ils ont fait un classement des chiffres qui ne font pas rire. Et alors là, attention, on a appris les 5 plus importants. Pourquoi ? Parce que c'est un classement. Et qui dit 5 dit...
Le top 5. Numéro 5.
Le cinquième chiffre qui ne fait pas rire, 20 millions d'euros, c'est le budget promo d'Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques. C'est marrant, mais on ne l'a pratiquement pas vu.
Numéro 4.
40 millions d'euros, c'est le chiffre d'affaires d'une tournée de Jean-Marie Bigard. 1 million de spectateurs à 40 euros le ticket en moyenne.
Numéro 3.
60 millions d'euros, c'est le chiffre d'affaires des ventes du DVD. Bigard met le paquet. Et oui, 3 millions d'euros à 3 millions d'exemplaires vendus à 20 euros la pipe quand même. Ah oui, c'est l'humour grossier hein, Bigard, qu'est-ce que vous voulez.
Numéro 2.
78 millions d'euros, c'est le budget du film Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques. Et point de vue fréquentation, eh ben, c'est pas rentabilisé.
Numéro 1.
Et le top numéro 1 des chiffres qui ne font pas rire des soi-disant comiques français. 420 millions d'euros, c'est... 420 millions d'euros. Un comique français, c'est...
Ah, tu m'as pris au dépourvu, là.
C'est le total de la revente départ d'Arthur de Endemol France. Ça ne fait pas rire du tout.
Non.
Et oui, parce que ce monsieur est soi-disant un comique. Voilà, c'est un chiffre, c'est un top 5 des chiffres qui ne font pas rire. C'est extrait de l'Écho des Savanes, le premier magazine d'investigation jubilatoire. Donc le numéro 267, avril 2008. Ça y est, ils sont revenus avec une interview assez intéressante aussi de François Rollin. Une explication des clans des comiques actuellement tels qu'ils existent et des petites phrases assassines mais aussi des photos qui ne font pas rire comme cette photo de Michael Youn brandant un flingue sur scène. C'est assez étonnant hein. Donc voilà, donc je remets un Du Sport qui va pouvoir revenir à sa lecture. a beau avoir maintenant un ordinateur, pour cela, on n'a pas encore la base de données dedans. Et ça se ressent. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, on avait reçu, à peu près à la même date, on avait reçu donc les organisateurs du festival Bulle d'Ombre, dont c'était la deuxième édition. La troisième aura lieu le week-end prochain, c'est samedi 19 et dimanche 20. Cette fois-ci, c'est à la salle des fêtes de l'Imerac. Alors, c'est une toute, c'est un tout nouveau centre culturel qui a été inauguré par la précédente mairie. Rue Xavier Darras. Xavier Darras étant un compositeur de musique contemporaine, mais ça vous en moquez un peu. C'est entre la côte pavée et la terrasse, pour ceux qui connaissent Toulouse. Donc, c'est sur la colline. C'est desservi par les bus ligne 23 à Réfirmis ou ligne 37, c'est à Arrêt d'Arras. Cette année, pour la troisième édition, l'affiche est de Lucien Roulin, qui est invité et qui sera présent. Lucien Roulin fait actuellement la série Backward, mais il a aussi fait un album du Décalogue chez Glénat. Il a fait aussi la série Ombre chez Glénat et Saskia des Vagues chez Dargo, que je vous recommande personnellement, Ombre et Saskia des Vagues. L'entrée de 3€ par jour, 2€ pour les étudiants et 5€ pour les deux jours. Parmi les autres dessinateurs qui sont prévus, il y a d'abord des coloristes, puisque c'est vraiment leur particularité, ce qu'ils ont dit. On va mettre les coloristes en avant-plan. Diane Brand pour les 4 princes de Ganaan, Ether, tout ça c'est chez Delcourt. Elsa Brand pour les chroniques de Magan, les contes du Corrigan, donc là chez Delcourt, chez Soleil, les fées de Brocéliande, Okeana et Wina. Qui sont des couleurs assez pastel, assez mignonnes, un conte de fées très très beau. Philippe Ringel, qui est dessinateur de Jet Cars aux éditions Filia. Ced, qui tient un blog qui s'appelle Ced Universe et qui vient de sortir Conte à dormir dub chez Macaca Édition. On espère un jour recevoir sur ce plateau. Odifier Doguet, qui fait un album qui s'appelle Ciel en ruine chez Paquet. Dave, pour les aventures de Gofterdom, ce studio, ça sort donc chez Lanfeust Magazine, donc chez Soleil. Django Renard chez Bambou, Phil Bustard chez Soleil, les Garnimos. Nicolas Demar, pour la série Merlin, la quête de l'épée. SP pour le territoire, Guillaume Lapère pour les chroniques de Magon chez Delcourt et Ether. Toujours autour d'Ether, Joseph Lacroix et qui dessine aussi l'encyclopédie du mal chez Soleil. Olivier Marin pour Michel chez Paquet, Lucien Roulin, on en a parlé, Yigael pour Egovox et Ether. Mais aussi on y retrouvera, en plus des séances de dédicaces, des fanzines. Une exposition de différents participants, une initiation au jeu de rôle faite par l'association Jeux de Troll, une démonstration de travail sur palette graphique qui sera réalisée par Suzanne Cazenave et Jérôme Maffre, Jérôme Maffre étant coloriste de Livrets et Fantômes, ainsi que d'autres animations telles qu'un atelier de reliure et plein d'autres choses. Et parmi les fanzines, on aura de la Déchaînette Team avec le regroupement de croquis regroupe au Kiss qui s'inaugure normalement pour ce festival. Et samedi à 19h, un concert avec ZZ Band. Voilà, plus d'informations sur le net. Ce sera donc le troisième festival Bulle d'Ombre. C'est samedi 19 et dimanche 20. Donc à la salle des fêtes Limerac sur la côte pavée. Et l'entrée est de 3€. Je n'arrive pas à le croire, selon la régie, il est midi 29 minutes, ils veulent pas que je passe de suite The Orb. Ouais, comme quoi, hein.
Ah non, parce que je regardais l'autre montre là, il y a un problème.
Oui, effectivement, non, moi j'ai l'horloge atomique à peu près réglée, hein, normalement, sauf que là elle est dans le reflet, donc j'en ai une quatrième de secours. Voilà, donc, de suite, et comme il est pratiquement midi 30 sur Poubelle des Radios, dans le supplément week-end sur Radio FMR, 89.1 MHz, et on va passer les pubs.
C'est incroyable. L'incroyable, c'est le concert de Nagual, le groupe biélorusse à Toulouse. Ce sera le mardi 18 mars au Petit London, 7 rue Pierre-Paul de Riquet avec FMR.
L'Union soviétique est notre partenaire le plus important.
Enchaîner les sorties bande dessinée avec Kim Hong Mo. La vie des gosses, c'est sorti dans la collection Made In chez Kanak. Made In est une collection de bande dessinée plutôt adulte, c'est-à-dire de propos adultes. Et là, dans ce cas-là, c'est plutôt de la vie quotidienne. Kim Hong Mo n'est pas un dessinateur de manga, mais un dessinateur de manhwa, c'est-à-dire qu'il est sud-coréen. Et il raconte sa jeunesse, une jeunesse simple, dans un petit village, dans une famille pas très aisée. Celle de Kokji, un jeune garçon un petit peu turbulent qui aime lire des manhwas. D'ailleurs, il raconte les revues qu'il aimait bien. Il aime faire des bêtises comme marauder chez les voisins ou s'aventurer sur les lacs gelés avec ses amis dans les bois ou donner un petit peu le coup, faire un petit peu le coup de poing dans la cour de l'école et tout ça. Dans le trait, on pense de suite au dessin caractéristique des Monts Baudouin, vous savez, ce dessin à l'encre au pinceau, sauf que là j'ai l'impression que c'est fait aussi au crayon gras. Il y a vraiment un travail sur la texture, sur le dessin, c'est très très bon. On n'est pas vraiment dans du noir et blanc, on a vraiment un dessin qui est assez particulier dans cette vie des gosses, qui rappelle justement le côté tous les dessins qu'on faisait à la craie sur le tableau noir. Il y a aussi cette innocence qui raconte des plaisirs simples du temps, de l'école, qu'évidemment on ne retrouvera jamais parce qu'elle est loin derrière quand même l'école primaire. Mais ces petites histoires se déroulent en Corée du Sud, dans la décennie 1980, alors que la dictature militaire est toujours présente, qu'elle réprime violemment tout mouvement de contestation, d'ailleurs il y a eu des émeutes plutôt sanglantes au début des années 80, qu'elle a peur du voisin du Nord, enfin ça, ça n'a pas changé hein, quand même. Sauf que ben cette peur des voisins du Nord, et ben les enfants bien naïfs on découvre qu'ils ont aussi été éduqués pour à se méfier des adultes, puisqu'on est avant la démocratisation de la Corée du Sud. Et cela, et ben on l'apprend dans un épisode assez étrange où en fait on apprend ben que la Corée du Nord va construire un barrage. La Corée du Sud dit c'est une catastrophe, ils veulent noyer les Jeux Olympiques. Vous vous rendez compte, ils font céder leur barrage, et tout le pays du Sud sera complètement noyé. Les enfants ils croient dur comme fer, ils se méfient des adultes qui leur disent non mais attends, faut pas croire ce que dit la télé, c'est n'importe quoi. Comme quoi on se méfie mieux de la télé quand on est en dictature que quand on est en démocratie. La vie des gosses, c'est dans la collection Made in chez Kana, c'est de Kim Hong Mo. Ah, je vais y arriver. Kim Hong Mo. C'est plutôt une histoire simple, hein. On pourrait presque la qualifier de nouvelle manga, puisque en fait c'est une vie quotidienne qui est racontée. Qui est juste en fait une manière de faire passer un certain quotidien qui est passé, qui fait partie de l'histoire. Mais il y a aussi un graphisme qui est très beau et qui vaut vraiment le coup d'œil. Toi t'aimerais peut-être avoir des gosses presque aussi sages. Voilà, c'est dans la collection Made in Chicana. Changement total d'ambiance avec Dika Chopka et Shekhar Kapoor qui produisent une série de bandes dessinées. Shekhar Kapoor, ça dira sûrement quelque chose à quelqu'un qui va écouter l'émission avec retard, ce pauvre Thomas. Et pour cause. Shamir Dasgupta en est le scénariste et Abhishek Singh en est le dessinateur. La couverture est signée Alex Ross, s'il vous plaît. Ramayan 3392, le premier tome d'une histoire complète sur deux tomes vient de sortir dans la, est sorti chez Virgin, sort dans la collection Fusion Comics chez Panini et Soleil. Et c'est l'histoire du prince Rama qui est un combattant légendaire, c'est lui qui va donner son nom à cette saga, hein. Le prince Rama est un combattant légendaire à la peau bleue. On dit qu'il est le seul à pouvoir mettre la pâtée aux armées démoniaques des Asuras menées par le seigneur Ravana, qu'on dit fils de l'apocalypse. Mais Rama est-il vraiment soutenu à la cour du roi vieillissant Daryavarta, où l'on refuse des aides précieuses comme celle des hommes singes? Eskarmaga, je vais y arriver avec tout ça.
Ah, t'as du mal, hein?
Là, je peine. Je l'ai pas répété. Parce que tout ça sont des noms qui sont importants. Attention, hein. C'est pas des noms qui ont été inventés.
Non, mais enfin, le Ramayana, c'est vachement connu, hein. C'est
voilà, on va y arriver. La dernière capitale humaine du 34e siècle est condamnée à périr. Sa splendeur n'est-elle plus que le témoin d'un lointain passé, celle des humains? C'est très très librement inspiré justement du Ramayana qui par Shekhar Kapoor, qui est le scénariste réalisateur pakistanais du film Elizabeth, qui avait eu en 98, qui a été nommé cette fois en 98 aux Oscars.
Ouais, okay.
Et dont la suite a été sortie en novembre dernier, donc Elizabeth, cette fois-ci, c'est la reine. Bah, t'en as parlé, hein, récemment, dans la rubrique télévision.
C'est pour ça que je voyais les noms, je me disais, mais putain, je connais ce mec.
Voilà, donc Guy Sport étant quand même un grand fan du cinéma hindou, sauf que là, c'est un Pakistanais. C'est quand même un spécialiste quand même du film à costume, hein, Shekhar Kapoor. Et là, étonnamment, il crée un univers de science-fiction oppressant où des demi-dieux et des démons se déchirent les restes de la race humaine. Ce qui frappe, c'est l'esprit baroque du dessin. Ça ressemble beaucoup au Lanceloan de Philippe Druyer.
Coucou Philippe. Oui.
Ah, il y a des ressemblances, mais à mon avis, c'est pas intentionnel. Je pense pas qu'ils connaissent forcément.
Non, pas du tout.
Mais en tout cas, on a ces couleurs saturées, ces détails très précis, le souffle épique des héros et des décors absolument improbables, baroques, tellement que c'est chargé, ça en est étonnant. Par contre, on se dit que deux albums de 48 pages, c'est peut-être un peu court pour une saga aussi riche.
Non, mais bon, de toute façon, il faut bien savoir que les légendes indiennes, hein, le Ramayana, le Mahabharata,
c'est une trilogie, voilà.
Autre, hein. Non, ce sont différentes légendes indiennes qui sont nées à différents moments de l'histoire de l'Inde, du continent. Hein. Donc, elles ont à voir, certaines ont à voir entre elles parce que les dieux et toute la cosmogonie indienne a pratiquement les mêmes dieux, hein, les trois basiques, le super dieu et ensuite tous ceux qui virevoltent autour. Mais les légendes sont nées à différentes époques. Hein. Il y a même une des légendes les plus modernes, hein, qui remonte au 15e ou 16e siècle et qui est encore très vivace, hein, de toute façon, dans l'esprit indien.
Ça n'a pas été écrit, c'est que c'est un poète d'ailleurs dont la biographie est racontée à la fin de cet album de BD, un conteur légendaire qui avant ça a été un bandit de grand chemin et qui donc a raconté cette histoire qui s'est enrichie entre le 3e siècle avant et le 3e siècle après notre ère, enfin après Jésus-Christ, pardon. C'est constitué de 7 livres, 24 000 vers, et on se dit, attends. Résumé dans une bande dessinée de 96 pages, c'est peut-être un petit peu juste. Et là, on se dit, on perd vraiment la richesse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc le Ramayana raconte la naissance et l'éducation du prince Rama, qui est le 7e avatar du dieu Vishnu, dieu destructeur, la conquête de Sita et son union avec elle.
Enfin, Vishnu n'est pas seulement destructeur, attention.
Oui, c'est le recréateur. Hein,
oui, attention, hein, ils ont toujours une double personnalité. Et Vishnu, d'ailleurs, est androgyne, hein, faut le savoir.
Voilà, aussi. Tout à fait. Écarté du trône de son Vishnu, père, alors qu'il est l'héritier légendaire, et il s'exile, accompagné par Sita et son frère, Lakshmana. C'est justement ce que raconte cette histoire. Sauf que, justement, Ramaya 3392 enlève cette partie mythologie avec tous les dieux indiens sont un petit peu séparés. On les voit, mais c'est des dieux secondaires pour pas trop rattacher, pour que l'occidental ne s'en aperçoive pas trop vite. Et à mon avis, c'est aussi parce que il est pakistanais, donc peut-être qu'il est musulman. Hein, ceci, Sheikh Kapoor, je ne sais pas. En tout cas, c'est une très 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 longue péripétie qui a été traduite plusieurs fois. La dernière édition est sortie au Pré-Auclair, 3 tomes vulgarisés, ils sont assez épais. Et là, ben justement, c'est une histoire qui est assez longue. Alors, je suis sûr que du sport là-dessus peut en revenir.
Vishnu, juste pour le situer, hein, si vous voyez un petit peu les dieux, on connaît surtout Ganesh, c'est-à-dire celui qui a la tête d'éléphant. Mmh. Mais Vishnu, c'est quand même l'un des 3 dieux principaux. Brahma étant au-dessus et Vishnu c'est celui qui a le trident. Mmh. Tu vois, quand tu vois les dieux, tu en vois un qu'un trident et puis avec une espèce de ceinture faite de peau de bête, ça c'est Vishnu.
On peut pas se tromper. Et je crois me souvenir qu'il a plusieurs bras. Non.
Non non, ça c'est Shiva. Shiva.
C'est Shiva. Je me trompe avec sa fausse sœur justement.
Non non, mais Shiva est également androgyne. Hein, attention. Mmh. Hein. Et en fait, le fait qu'il y ait beaucoup de bras dans les statues, c'est pas parce qu'elle a effectivement plein de bras, mais c'est pour montrer le mouvement. C'est une façon de montrer le mouvement, quoi, que font les bras. Elle est en plein mouvement et tout. Et bon, et Shiva d'ailleurs est vachement plus destructrice, si tu veux, quoi, quand elle a sa personnalité féminine, que Vishnu, quoi. Enfin, ça c'est vraiment très très compliqué.
C'est extrêmement énorme, compliqué. C'est il faut énorme. Lire. Moi, je connaissais le Mahabharata. Entre autres par les éditions écrites, mais surtout par le film.
De Peter Brooks. Hein.
Celui qui dure pratiquement une vingtaine d'heures.
Oui, c'est ça, de Peter Brooks.
Ouais. Je l'ai vu en une séance cinéma. Ils avaient fait une projection c'était pas au Rio, je crois que c'était à l'ABC à l'époque. Ils avaient fait la projection en une fois en sous-titré. Fallait s'accrocher.
Faut s'accrocher.
Mais c'est très beau, c'est très riche. Et là, de ce côté-là, justement, les cultures indiennes sont d'une richesse fabuleuse, comme n'importe quelle saga, que ce soit les Vikings, les Grecs, les Romaines, les Égyptiennes et tout ça. Et là, c'est une adaptation bande dessinée qui est intéressante. Alex Ross rajoute sur le côté épique justement en couverture, donc Deepak Chopra et Sheikha Kapoor qui produisent justement cette adaptation, scénarisée par Shamik Dasgupta et dessinée par Abhishek Singh. Ouf, j'y suis arrivé. Ramayan 3392, premier tome sur 2, qui sont sortis chez Virgin Comics, sortent en France chez Fusion Comics, qui est la coédition entre Panini et Soleil. C'est vraiment le coup, à mon avis, de s'y jeter par ses couleurs, par cette ambiance et tout ça. C'est une grosse ambiance curry et qui arrache la gueule. Y a pas à dire. C'était sorti bande dessinée midi 42 sur la poubelle des radios. Et pour une fois, je vais presque arriver à vous faire déborder. Non, même pas du sport, il en a après.
Ah, oui.
Alors après une coupure musicale.
Attends, je vais te mettre le morceau.
J'ai mieux. J'ai du Bollywood, mon mère. Ami.
Là.
Respect. C'est extrait du film Sirmf Tourm d'Ilbar, interprété par Alika Yannick. sport, lui, il l'entame dans la revue de presse et on parlait de l'écho des savanes qui est un petit peu plus lisible. C'est vrai que les précédentes maquettes faites par Hachette Filipacchi, il voulait pas trop qu'il y ait de texte. Il fallait plus que ça soit un truc de photo, de cul, etc. Et là, c'est beaucoup plus lisible, beaucoup plus agréable. Et c'est plutôt intéressant ce qu'il y a dedans. Mais c'est pas le sujet de Duce, puisqu'on en a déjà parlé. Il prend sa roteuse en bouteille rouge favorite.
Yes.
D'ailleurs, celle aussi d'enflammer. Bonne année, mon petit cœur.
Allez, alors, encore de la BD, là, avec un Marvel Heroes. Et alors, quand j'étais au kiosque et puis que je cherchais dans la collection des Panini d'ici et tout, là où sont rangés tous les comics, je voyais Marvel Heroes, je regarde le numéro 1, je me dis, attends, il y a un truc qui déconne. Parce que bon, bah, en principe, ils en sont au 5 ou au 6. Et ben non, c'est un hors-série, premier hors-série de Marvel Heroes, et qui est consacré à un super-héros qui fait partie des plus anciens super-héros de Marvel. J'ai nommé...
Oh, Namor.
Namor.
Oh, c'était pas un super-héros au début.
Le prince d'Atlantis. Alors tout au début, en fait,
C'était le méchant de Superman.
Ah non, pas du tout. Hein. Non. Il est paru dans une publication en 1939. C'est une publication pour les enfants qui s'appelait Motion Picture Funnies Weekly, qui en fait était un magazine gratuit qui était distribué aux enfants à la sortie du cinéma. Et dans laquelle on testait des nouveaux héros, des super-héros, enfin des héros qui pourraient être publiés de manière plus récurrente par la suite, si jamais ils fonctionnaient. Bon, pour Submariner, ça a pas trop marché, mais par contre, Bill Everett, en 1940, l'a repris et le sort dans ce qui s'appelle Marvel Comics numéro 1, qui à l'époque, la maison d'édition ne s'appelait pas Marvel Comics, c'était Timely. Et donc, le premier exemplaire, le premier numéro de Timely, la maison éditrice qui s'appelle Marvel Comics, eh bien, dedans, on retrouve le Submariner. On retrouve également la torche qui n'est pas la torche moderne qu'on voit réapparaître dans les Fantastic Four, mais qui était un androïde au départ, dans les années 40.
Ouais, et dont l'histoire a été très bien re-racontée par Alex Ross, dont j'ai parlé tout à l'heure, dans un bouquin, Human Torch, qui était ouf. Absolument gigantesque.
Voilà, alors Namor est vachement connu dans les années 40, vers les années 50, ça commence à décliner un petit peu. Il faut attendre le début des années 62, à savoir le reboost de Marvel, c'est-à-dire Stan Lee qui commence à ressortir les Fantastic Four dans les années 62-63, et donc qui relance un petit peu le Submariner. Submariner qui en même temps aide à faire revenir Captain America, qui était mort, prisonnier dans les glaces et tout.
On l'a
laissé de côté parce que justement, il ne correspondait plus à l'époque à l'idée qu'on se faisait de
Captain America. En 1947, il avait disparu. Voilà.
Captain America, bon, à l'époque de la guerre, quand il était sorti, bon, bah, ça valait le coup, il fallait buter les nazis. Oui. Après, il fallait buter les communistes. Mais après, bon, il fallait plutôt mettre la pédale douce. Ça a plus marché, donc on l'avait foutu enfermé dans une prison de glace et tout. Mais Namor est là pour ressortir Captain America. Namor, il dure donc dans cette période des années 60 jusqu'en 74, de manière assez récurrente. Il y a même un périodique qui s'appelle Submariner, l'autre nom de Namor. Et vers la fin des années, vers le milieu des années 70, en 74-75, bon, on arrête un petit peu la publication. Il faudra attendre très très longtemps dans les années 80, quelques petites apparitions, mais enfin très très épisodiques. Dans les années 90, deux mini-séries. Et là, plus récemment, eh bien cette petite mini-série qui s'appelle Submarine, donc en six parties qui sont réunies dans ce hors-série.
D'accord. Donc c'est l'histoire complète. Donc
c'est une histoire complète.
Ok.
Une histoire complète, mais dont la fin laisse présager qu'il va y avoir une suite. Effectivement, il va y avoir une suite. En fait, c'est la relance de Namor. On va essayer de relancer Namor et on va essayer de le relancer de manière récurrente. Et c'est le point de départ, en fait, parce que dans le départ de cette aventure de Submariner, qui est d'ailleurs scénarisée par Matt Chernis et Peter Johnson et dessinée par Phil Brion, dont on parlait il y a pas si longtemps que ça.
Ah oui.
Voilà.
Qui nous a posé un lapin.
Ouais. Bon. Eh bien, tout au début, le prétexte, c'est une ville aux États-Unis se fait entièrement raser par une attaque terroriste. Alors bien sûr, Tony Stark, on est après Civil War, hein, toujours dans la période où tous les agents, tous les super-héros doivent être répertoriés par le gouvernement ou être déclarés hors la loi. Et donc c'est Tony Stark qui est le grand patron, hein, en fait. Et Tony Stark, il commence à voir du côté de Namor, parce que bon bah du côté de l'Atlantis, parce qu'il se dit bon bah, ok, ça peut venir que de lui, parce qu'il sait très bien qu'il y a des cellules dormantes que Namor a installées d'Atlantis pour sur le continent de surface.
Al-Qaïdiste
et qu'il détient également en prison, enfermé, Nitro, qui est un terroriste patenté. Donc là, ça le fout pas trop. Ça évolue de manière assez paradoxale. Bon, Namor, il se fait des ennemis de tout le monde, hein, c'est-à-dire il va se bastonner avec le Moon Knight, il va se bastonner avec Wolverine, il va se bastonner avec les Fantastic Four, et ça termine avec un espèce de cliffhanger, parce que la dernière image, eh bien, c'est Namor qui arrive à s'enfuir et qui est recueilli par qui ? Regarde bien. Qui est recueilli par...
non, c'est pas le... C'est un méchant, j'ai oublié, merde, c'est...
C'est Fatalis.
Fatalis, oh putain.
Par le docteur Fatalis.
Ah, je l'ai pas reconnu, j'ai honte.
Ah bah ouais, mais bon. Alors, c'est vraiment vraiment impeccable, hein, y a pas de problème, hein. C'est assez violent quand même, hein. C'est toujours pour les adultes, hein, y a pas de problème, hein. À un moment il arrache la langue, hein, d'un monstre et tout, bon, c'est assez trash. Ça vaut le coup, donc c'est le Marvel Heroes, le premier hors série consacré aux submarinaires, un peu plus cher que les périodiques classiques, hein, 5,60 quand même, mais ça vaut le coup, il est vachement plus épais quand même. Ensuite, parlons un petit peu de Mad Movies du mois d'avril, avec l'édito qui pour la, qui est plus courte que d'habitude, mais qui veut dire ce qu'elle veut dire, le titre Bienvenue chez les cons.
Bravo.
Dans lequel Fausto Fasulo explique que si tu veux faire du cinéma en France, ne fais surtout pas du cinéma de genre, fais du cinéma comique. Là, tu auras des avances de la CNC, là tu auras des producteurs qui te verseront plein de pognon au départ pour faire ton film de comique. Mais si tu veux faire un film d'horreur, et si tu veux faire un polar, encore le polar ça peut aller, mais si tu veux faire un film d'horreur, un film de genre, laisse tomber. Déserte la France, casse-toi. Bon, c'est un petit peu le.
Ça, l'esprit. On le savait, hein.
Ouais, ouais, non, mais bon, là, ils en rajoutent encore une couche, et c'est très, très bien, hein, y a pas de problème. Sinon, à part ça, un article en 4 pages très intéressant sur le film qu'on attend, mais alors depuis des années et des années et des années, et que peut-être qu'on sera déçu l'année prochaine quand il sortira, on sait pas, parce qu'il s'agit quand même d'un des monuments, hein, des années 80 de la bande dessinée, et surtout dans le monde des comics, hein, je veux bien entendu parler des.
Watchmen.
Voilà. Les Watchmen, il n'y a pas que ça, il y a également toute une partie qui est consacrée au cinéma fantastique espagnol. Ouais, je vais y arriver quand même. Il y a également un gros article sur la dernière production espagnole, le film qui a raflé 2 prix au dernier festival de Gérardmer, à savoir le film Rec de Jaume Balagueró et Paco Plaza. Il y a également un dossier sur Funny Game, la reprise par Michael Haneke. Il y a également dans les légendes du fantastique la première partie du truc sur Boris Karloff. Alors là, vraiment, ça a pas loupé.
Ah,
ouais, non. Il y a également le Mad Cut qui est consacré à Star Trek, le film réalisé par Robert Wise, ouais, dont il faisait l'historique là dans le dernier numéro, le numéro de mars.
Ouais, très attendu, hein, et ouais, annoncé comme étant très très beau, très très haut niveau.
Voilà, et toutes les rubriques habituelles, à savoir le Madgazine, le Fantastic Guide, la Caverne du Beer. Et la pin-up qui pour une fois est pas trop mal, mais bof quoi.
Ouais. Bon, ok, c'est joli.
C'est une blonde. Voilà, c'est le Mad Movie du d'avril, quoi. Et un peu de musique.
Ok. Te laisse l'annoncer ou on laisse découvrir? D'accord. J'étais un peu brusque, je me suis trompé de pétard. On a laissé le temporaire passer parce que tout simplement, c'est les Rolling Stones.
Et ouais, à l'occasion d'une Rolling Stones Night qui aura lieu sur Paris Première mercredi prochain. Il va falloir attendre vachement tard, hein, 23h45, un petit peu dur. Et pourquoi les Rolling Stones? Tout simplement parce que, eh bien, très prochainement, bon, peut-être pas à Toulouse parce que bon, si quand même. On y aura droit peut-être dans une salle comme ça en catimini, genre l'Utopia, tout ça. Quoique, mais bon, c'est à l'occasion de la sortie prochaine du film réalisé par Martin Scorsese, un film documentaire qui s'appelle Shine a Light, justement, du titre de ce morceau des Rolling Stones, Shine a Light, qui en fait, eh bien, est un concert filmé. sur deux soirs, hein, qui a été filmé l'année dernière, enfin l'année dernière, en 2006, au Beacon Theater de New York, sur deux soirs, avec bon quelques petits invités, genre Buddy Guy, Christina Aguilera, Jack White,
ah ouais,
ouais, des gens comme ça, donc qui ont fait partie du concert.
C'est pas Jack Black?
Non, Jack White.
Oh non, les White Stripes.
Ouais.
Voilà.
Bon, pourquoi Martin Scorsese? Si les gens connaissent un petit peu l'œuvre de Martin Scorsese, ils se rendent compte que dans tous ses films, il y a au moins un morceau des Stones. Quand je dis au moins un morceau, hein, je suis vraiment réducteur parce qu'il y a toujours plusieurs morceaux des Stones. Il y a même des morceaux qui sont repris dans plusieurs films. Gimme Shelter, il apparaît dans deux films, je crois, au moins, quoi. Tu vois, le morceau Gimme Shelter. Et sinon, bon, bah, il y a Monkey Man. Enfin, bon, je rappelle pas la liste de tous les morceaux des Stones. Mais dans chaque film de Scorsese, il y a au moins un extrait ou il y a au moins un petit passage avec les Rolling Stones, parce que Scorsese est un fan absolu depuis le départ des Rolling Stones et qu'il a grandi avec eux, hein, faut le dire aussi ça, hein, il est de la même génération qu'eux.
Parce que c'est méchant, t'es méchant pour Scorsese.
Bah non, 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 bah, il fait son âge, hein, il faut aussi dire que Scorsese n'est pas seulement le cinéaste qu'on connaît, c'est-à-dire celui qui a sorti plein de films, des bons, des moins bons, mais c'est également un grand documentariste, hein. Il a fait une histoire du cinéma qu'on a pu voir sur Arte il y a 3-4 ans. Il a fait également un documentaire sur ses ascendances italo-américaines, hein, sur l'histoire de ses parents et de sa famille. Bref, il connaît également le monde du documentaire. Et bah, on attend quand même avec impatience, hein, que ce film sorte. En attendant, eh bien, Paris Première nous propose une nuit, donc pratiquement une nuit Rolling Stones, avec tout d'abord à 23h45 mercredi prochain Stones in the Park. Rappelez-vous, le 5 juillet 69, soit deux jours après le plongeon fatal de Brian Jones dans la piscine, les Stones ont organisé un concert dans Hyde Park à Londres, hein, le grand parc, l'un des plus grands parcs de Londres.
C'est le plus grand.
Non, non, je crois qu'il y en a un autre qui est Regent's, il me semble, est plus grand.
Oh, c'est juste largement en dehors de...
Non, 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 bref. dans lequel, ben, on voit apparaître, ben, le nouveau guitariste des Stones, celui que vous avez écouté là faire le solo, hein, Mick Taylor, hein, qui remplaçait Brian Jones, qui pouvait pas venir.
Qui est levé.
Il était empêché, il était un peu mouillé encore. Et, dans lequel on voit, un Mick Jagger réciter du Shelley, hein, pour, faire un hommage à Brian Jones et tout. Et un concert assez rigolo quand même, Stones in the Park. C'est un des meilleurs concerts des Stones au niveau ce qui a été filmé, parce que musicalement là ils sont au top, quoi. Là c'est vraiment le top des Stones. Enfin, pour ma part, hein, mon opinion personnelle, là c'est vraiment le top au niveau concert. Hein. Donc si vous l'avez jamais vu celui-là, allez-y, ça vaut le coup, ça déménage vraiment bien. À 0h40, donc après ce Stones in the Park, un documentaire, Les Rolling Stones, mensonges et vérité. Bon, on connaît pas mal l'histoire des Stones et tout, la
Alors,
légende.
Alors, est-ce que les boulettes en haut des bibliothèques font bien annuler les tournées de concerts?
Plein de petites choses comme ça. Et à 1h45, dans le cadre des Hollywood Stories, une Hollywood Stories consacrée à l'aventure amoureuse de Mick Jagger et de Jerry Hall, le couple mythique qui s'est séparé il y a quelques années quand même. Enfin bon, ils ont quand même duré vachement longtemps. Hein. Ils ont eu des gosses et tout. Bref, tout ça donc sur Paris Première. Il y a également du Rolling Stones sur M6 Music Rock demain. Trois fois plus de Rolling Stones avec plein de clips et tout demain. Mais il n'y a pas d'horaire, donc je peux pas vous le donner. Et
à tes souhaits.
Et également sur MTV Idol jeudi prochain à partir de 22h, une soirée Rolling Stones and Company. Donc je rappelle, hein, c'est surtout la Rolling Stone Night sur Paris Première mercredi prochain à partir de 23h45 et le Stones in the Park. Si vous n'avez jamais vu ce documentaire, ce concert filmé, là, allez-y, ça vaut le coup. Hein. Là, c'est vraiment très très bien, quoi. Parlons un petit peu de série à présent. Une seule série inédite cette semaine. Et pas vraiment inédite, hein. C'est une reprise. On l'avait déjà entreaperçu. Ils avaient diffusé un seul épisode, puis ils avaient arrêté les frais. On sait pas pourquoi. Mais là, ben, ils reprennent cette diffusion de cette série qui s'appelle Hidden Palms, qui est une série assez récente, hein, qui date de l'année dernière, 2007, et qui sera diffusée par Energy 12 à partir de lundi prochain, 20h45.
Alors, le son sur Energy 12, ils ont un traitement de son qui rend inaudible.
Alors, Energy
12. Los Angeles Homicide, j'ai pas pu. Qu'est-ce qu'il y avait encore? La série Fille, là, de Doctor Who, Torchwood. Inécoutable, au bout d'un moment, c'est insupportable. Et c'est, là, franchement, non, je pourrais pas.
Hein. Vas-y, prends numéricable. Non, Energy 12. Alors, la case de Energy 12, le lundi, généralement, c'est série un peu ado, sentimentale, truc comme ça et tout. C'est un petit peu le cas de cette série Hidden Palms qui a été créée par un certain Kevin Williamson. Ah, c'est-à-dire Dawson. Mais c'est-à-dire, oui, mais c'est-à-dire également aussi les scénarios de Scream. Souviens-toi l'été dernier.
C'est spécialisé slasher effectivement aussi, mais c'est vrai qu'il a, il a été pas mal producteur dans des trucs de d'ado, oui.
Bon, cette série n'a pas du tout marché. Elle a été arrêtée au bout de 8 épisodes aux États-Unis. Alors c'est quand même un petit truc à découvrir parce que sous ce titre Hidden Palms, eh bien se cachent les secrets de la ville de Palm Springs aux États-Unis. Voilà. Donc ça c'est sur Energy 12 lundi prochain à partir de 20h45. Sinon c'est de l'inédit ici en France. Et enfin, on arrive à la saison 6 de Gilmore Girls. On peut dire merci à France 4 de nous diffuser Gilmore Girls, parce que France 2 avait commencé cette diffusion de manière très régulière pour les deux premières saisons. Et puis, inexplicablement, sans aucune raison, France 2 arrête la diffusion de Gilmore Girls. Excellente série, très appréciée, et qui raconte les aventures et la vie d'une mère et de sa fille qui a 16 ans de moins qu'elle. Et donc leur complicité, mais c'est vraiment très très bien. Musicalement, c'est très bien illustré avec beaucoup d'extraits de morceaux que vous connaissez, de groupes que vous connaissez. C'est très bien interprété. Alors dans cette saison 6, on voit apparaître le petit copain de Rory, qui est la fille de Lorelai, bien sûr, qui s'appelle et qui n'est autre que Milo Ventimiglia. Peter Petrelli dans Heroes. On verra également dans cette saison 6 apparaître comme guest star Polanka. Eh oui, Polanka. Qui c'est Polanka?
Je donne ma langue au chat.
Eh bien, c'est lui qui a traduit en version anglaise, il est canadien, qui a traduit en version anglaise le tube My Way. Les paroles de My Way en anglais, ça vient de lui.
Oui.
C'était un chanteur de charme dans les années 60 et tout. D'ailleurs, je crois que j'ai un morceau sur le disque là. Il y a également les Sparks qu'on voit apparaître dans cette saison 6 et Sherilyn Fenn entre autres. Donc les Gilmore Girls, à partir de la saison 6 débute à partir de mercredi prochain 18h05 sur France 4. CSI Miami, yeah. Horatio Caine,
l'homme pratiquement plus inexpressif que mince, j'ai oublié.
Que...
Non, je vais pas le dire, sinon tu vas me dire ah si, j'ai un disque country là. Stephen Seagal, bien sûr.
Steven. Non, alors CSI Miami, on en arrive
je me suis dit non, sans Stephen Seagal, il a dit ça tombe bien, prends le disque.
Non, je l'ai pas ramené. CSI Miami, mardi prochain, on arrive à la saison 4 après deux des derniers épisodes de la saison 3 à 20h50, dernier match. Le numéro 22 de cette saison 3 qui en compte 24, suivi du numéro 24, le numéro 23, bon, on l'a diffusé avant, on s'en fout, c'est pas la peine de toute façon de les passer dans l'ordre. Le dernier de la saison 3, donc vers 21h40, on va dire, s'appelle Révélation, et comme guest star, on aura droit à Dean Winters. Dean Winters, ah bah quand même connu, hein, Dean Winters, c'est l'Irlandais.
Mais si, connu.
L'Irlandais rouquin dans Oz. C'est également l'un des partenaires de Chris Meloni et de Mariska Hargitay dans New York Unité Spéciale, mais dans la première saison, parce qu'après, il se fait dégager en compagnie de la Blackette. Hein. Au départ, il y a également la Blackette qu'on voit apparaître dans cette unité spéciale des victimes, et son deux personnages, deux caractères, j'allais dire deux personnages qui disparaissent dans la saison 1. On se concentre plus sur le couple Hargitay-Meloni, ainsi que sur les personnages subalternes qui sont interprétés par Richard Belzer, c'est-à-dire Munch et Ice-T, pour Tutu Ola. Oda Finn, tout au voilà. Donc pour Dean Winters dans Révélation, donc mardi prochain et à 22h25, donc le premier épisode de la saison 4 de CSI Miami, avec l'apparition d'un nouveau personnage récurrent dans l'équipe d'Horatio Caine, une spécialiste ADN interprété par Eva Larue. Waouh. Et avec comme guest star comme guest star dans ce premier épisode de la saison 4 qui s'appelle Sans fleurs ni couronne, eh bien Brendan Fair. Ah oui, le chéri de ces dames, rappelez-vous Roswell. Ah oui, qu'il est beau. Ensuite, reprise là, c'est une série si vous l'avez loupé. Ça passait sur Comédie, me semble-t-il, assez tard le soir, hein, genre 11h30 le samedi soir, un truc comme ça. Et pourtant, c'est une série qui a cassé la baraque aux États-Unis, mais qui n'a pas connu le succès ici, chez nous, quoi. Je sais pas, c'est resté bizarrement un petit peu confidentiel. Je parlais de Arrested Development. Excellente série. Hein. C'est l'histoire d'une famille de riches qui se retrouve pauvre du jour au l'autre, et donc ils vont devoir se démerder. Et c'est vraiment très très bien. Hein. Cette série a quand même duré plusieurs saisons, et vraiment humoristiquement, on voit que les Ricains peuvent faire très très fort quand même. Hein. C'est sur Virgin 17 à partir de ce soir 23h05. Arrested Development. Tu vas passer un petit peu de musique maintenant. Alors, la semaine dernière, on parlait des screenings de Série Club qui avaient lieu avant-hier et hier soir, donc sur Série Club, l'occasion de découvrir les pilotes inédits de 9 séries jamais vues donc ici en France, et pour en sélectionner juste une. Alors c'est là que je pourrais encore ressortir mes critiques sur la chaîne Série Club, hein, qui fait vraiment dans le cheapos, hein, qui nous propose au travers de ces screenings des fois des séries très intéressantes qu'on aimerait voir développer un petit peu plus, et pas seulement à travers un pilote. Et dans ces screenings, eh bien, de 9 séries présentées, de 9 pilotes présentés, eh bien, on n'en gardera qu'une qui sera diffusée en intégralité à partir de septembre prochain. Bon, c'est un petit peu dur, c'est
Et surtout aussi long, quoi. Alors qu'ils les ont déjà en main.
Ouais, non, mais bon, surtout qu'il y a, plein de séries différentes, hein, je veux dire, il y a plein de genres différents, donc ce serait pas mal d'avoir un petit échantillon de chaque, quoi. Mais bon, c'est pas tellement le cas. Jeudi, ça a commencé par Stacked, une excellente, pas mal, hein, sitcom avec le retour de Pamela Anderson. Hein. Pamela Anderson qui enterre sa vie de garçon, sa vie de débauché. Et qui se fait embaucher dans une librairie tenue par deux frangins. Alors c'est assez rigolo, c'est assez sympathique. C'est le format sitcom, hein, c'est-à-dire 25 minutes, donc c'est assez rapide. Bon, ça manque quand même un petit peu de rythme, mais par contre, Christopher Lloyd là est carrément assez génial, hein, en vieux professeur bougon, savant atomiste un petit peu bougon. C'est ça vaut son pesant de cacahuètes quand même. Ensuite, on avait droit à Veritas The Quest. Alors là, bon, un petit peu haut de gamme quand même, une espèce de Indiana Jones matinée de Da Vinci Code, avec dans le rôle principal Ryan Merriman qui joue le fils d'un mec qui est à la tête d'une organisation qui s'appelle Veritas et qui est chargé de résoudre les énigmes qui sont encore là, qui régissent encore notre monde, tu vois,
mais crier Moudink.
Oui, mais aller dans des cryptes pour découvrir des secrets, des trucs pas possibles et tout. Mais il y a d'autres personnages qui sont vraiment contre ce genre de truc et qui vont essayer de tout dégommer. Alors outre Ryan Merriman, donc qui joue le rôle du fils et qui d'ailleurs on l'a vu encore plus jeune. Là il est ado et puis bien bodybuildé et tout, quoi. Là, bon, on voit qu'il s'avise quand même, hein. On l'a vu justement dans le rôle de Jarod enfant dans la série Le Caméléon. tu sais, les,
les flashbacks.
Les flashbacks où tu vois Jaro d'enfant, en fait, c'est Ryan Merriman.
Oh, je vais me faire un DVD de mon enfance, si chérie.
Alors, dans ce pilote, ça bouge, c'est bien produit, il y a de l'action, hein, c'est, ça dépote pas mal. Arnold Voslo, quoi, comme âme d'année, on va dire, mais enfin bon, comme protecteur, on va dire, un spécialiste de Kung Fu et de Jiu Jitsu. c'est assez intéressant. Derek DeLint dans le rôle du Poltergeist.
Oh punaise.
Dans le rôle du patron des méchants avec Zach Grenier qui est un de ses hommes de main. Ça vaut le coup, c'est pas mal. Et Eric Balfour également, hein, dans, qui fait partie de l'équipe, qui est diplômé en astronomie, archéologie et paléontologie, enfin bon, tout ce que tu veux, quoi.
Et crochetage de serrure en général.
Ouais, ouais, non mais c'est pas mal, hein. Ce qu'on peut se dire, hein, quand on voit le pilote d'une série comme ça, quoi, c'est que ça risque, le soufflet risque de retomber assez rapidement. Aïe. Bon, on nous assure que c'est pas le cas et que le restant de la saison se déroule avec pas mal d'intrigues et de petites choses comme ça. Donc, c'est quand même une bonne surprise. C'est une série qui date quand même de 2003, hein, qui n'est pas toute récente, mais qui est quand même assez intéressante. Ensuite, Great Scott. Alors là, bon, bah, je vous avoue franchement, quoi, j'ai regardé 5 premières minutes, je suis allé me coucher. Bon, pourtant, c'était Tommy Maguire en 92. Et bon, si le propos a l'air intéressant, hein, l'histoire d'un ado qui a des problèmes existentiels, comme tous les ados, hein, bien sûr, hein, et qui s'évade... par les rêves, c'est-à-dire il commence à rêver puis bon hop il va péter dans un autre monde, quoi, enfin bon, ça peut être intéressant, bon, enfin bon. Et bon, j'ai complètement loupé de State Within, qui avait l'air d'être la meilleure série de ce jeudi dernier, d'avant-hier, hein, qui est une série britannique, le contexte de diplomatie britannique, machination diabolique, atmosphère post 11 septembre, enfin bon, tu vois un petit peu le genre. Ça, les Anglais savent bien faire. Bon, c'est un petit peu dommage. C'était la série qui passait le plus tard, qui passait après minuit. Hier soir, on avait droit tout d'abord à First Monday, que j'ai zappé parce que bon, bah, voilà, j'avais autre chose à faire. Par contre, après Girlfriends, hein, j'avais pas trop fait l'article parce que je savais pas trop à quoi m'attendre. C'est quand même une série qui a commencé, une sitcom qui a commencé en l'an 2000. Et qui s'en est arrêté à sa 8e saison, qui vient de s'arrêter là.
Hein, ah oui.
Histoire de quatre nanas black, dont l'une est avocate, l'autre est son assistante, une troisième, je sais pas trop ce qu'elle fait. Et puis bon, c'est l'histoire de ces quatre nanas et tout, quoi. Bon, c'est vraiment avec l'humour un petit peu black comme ça, rentre dedans, un petit peu, mais pas trop. C'est vraiment bien. Franchement, là, ça a été une surprise, quoi. Tu vois, on s'attendait pas à ça, et bon, on n'a pas été déçus quand même. Ça vaut vraiment le coup, hein. C'est excellent. Vraiment, c'est excellent. Donc, Girlfriend. Ensuite, la curiosité, c'était quand même Mork and Mindy. Cette série de 78, hein, qui raconte l'histoire de l'extraterrestre Mork, qui étudie les terriens avec Mindy. Alors, Mork, c'était un personnage qui était apparu dans Happy ouais. Days.
Hein, et qui est donc interprété par
Robin Williams. Alors là, ça vaut vraiment son pesant de cacahuètes, surtout que dans l'épisode pilote, hein, qu'on a pu voir hier soir, eh bien, Mork est obligé d'expliquer à Mindy, c'est-à-dire la fille chez laquelle il atterrit pratiquement, hein. En fait, il atterrit sur Terre. Tu vois, il atterrit sur Terre dans une espèce d'œuf, carrément, un œuf carrément, quoi. Il se fait virer, quoi, en fait, de la planète Ork, hein, parce que il fait que des conneries. Parce qu'en fait, il raconte que des vannes. Et dès qu'il ouvre la bouche, c'est pour sortir une vanne, c'est pour se foutre la gueule des gens, quoi. Il arrête pas. Et bon, ça, Robin Williams, il sait faire, il y a pas de problème. Quand il arrive sur Terre et tout, bon ouais, il atterrit juste à côté d'une bagnole dans laquelle, bon, aux États-Unis, un mec et une nana sont tous les deux au clair de la lune, voilà, tu vois ce que je veux dire. Et bon, ben le mec, ça s'avère être un petit peu entreprenant par rapport à la nana, et donc la nana le jette, et le mec se barre avec la bagnole. Manque de bol, c'est la bagnole à la nana, quoi. Et donc Robin Williams, Mork, se propose de la ramener, et c'est comme ça que ils vont faire connaissance tous les deux. Et pour expliquer qu'il était déjà venu sur Terre auparavant et que il revient sur Terre pour étudier les Terriens et ramener ce qui est bien chez eux, il explique qu'il était venu, et on revoit donc un large extrait de l'apparition de Robin Williams qui sonne à la porte, et c'est Fonzie donc qui lui ouvre la porte parce que les autres sont pas là, hein. Richie est à la fac, donc c'est pour ça qu'on le voyait pas trop dans la série Happy Days au bout d'un moment et tout. Et c'est Fonzie qui garde la baraque, quoi, si tu veux, quoi. Et là, bon, là, ça m'a fait vachement plaisir parce que c'est la première fois que j'entendais la voix de Henry Winkler en version originale. Et il faut dire que c'est vraiment pas mal. C'est bien. Des fois, on est déçu hein, par les versions originales hein, quand on a été habitué à une série en version française bien doublée. Et quand on tombe sur une version originale où le mec, bon bah, se démène ou espèce de prendre un espèce d'accent qui est pas qui est vraiment forcé. Là, non, il le fait vraiment très très bien. Ça vaut le coup. Donc, Mork and Mindy. Également sitcom, mais bon, vraiment très délirant. Hein. Et là, c'est Robin Williams qui fait tout. Là, ça vaut vraiment le coup quand même. Et ensuite, là, la grosse découverte, c'était quand même Suburban Shootout, qui n'a pas l'air d'être beaucoup apprécié par Télécap Satellite Hebdo, hein, qui fait également la critique et qui organise également ses screenings en compagnie de Série Club, et qui déclare d'étonnants mélanges que la facilité pourrait apparenter à Desperate et à Kill Bill, mais elle n'en a ni la force ni les qualités, le style convenu des auteurs et la faible qualité des dialogues peinent à convaincre. Série britannique en deux saisons, elle ne marche qu'au Botox et au Viagra. En fait, tu vois, ils sont durs. Hein.
Ah ouais.
Et pourtant, bon bah, ça démarre vachement bien. En fait, c'est l'installation dans la petite bourgade, ville de banlieue de Little Stampington en Angleterre, eh bien, d'un couple dont le mec est le flic nouveau promu dans cette cité, et la femme va apprendre qu'il se passe des trucs vraiment pas clairs en fait, bah, que de par le passé, comme c'était une ville, les gens voulaient être en paix et tout, eh bien les femmes, pas les mecs, hein, les femmes se sont regroupées quoi, et ont castagné et ont viré tous les voyous, tous ceux qui étaient hors la loi et tout, et donc au bout du jeu se sont pris un petit peu au jeu justement quoi, et ont commencé à racketter toute la ville, et donc ça raconte un petit peu l'histoire entre les deux clans, c'est à dire les nanas qui aimeraient bien que ça revienne à la vie normale et les autres qui se disent ok, bon bah on a la main mise sur la cité, y a pas de problème, et donc bah, l'arrivée de la femme du flic va faire que ben elle va devoir balancer entre l'une et l'autre. Alors le pilote est vraiment détonnant, c'est vraiment une grosse surprise parce que bon, on s'attendait pas à ça du tout de la part des Anglais quoi, hein, qui sont un peu plus posés, plus tranquilles, qui ont l'habitude de faire des trucs plus écrits, plus intellectuels, on va dire. Alors que là, ça dégomme et le titre anglais, hein, Suburban Shootout, c'est-à-dire hein, règlement de compte en banlieue, ça veut tout dire. Hein, ça dégomme, ça explose des magasins et tout. C'est assez rigolo quand même. C'est à voir quand même, Suburban Shootout. C'est une série qui date quand même de 2006 et il faut savoir que les ricains chez qui elle a été diffusée l'ont apprécié et vont refaire un remake américain.
Ouais, ça hein, c'est ça, mais j'ai l'impression que les chaînes américaines, enfin surtout ABC là-dessus, de ce côté-là, ils ont cédé à l'immense facilité de faire dans le remake un petit peu facile. Voilà. Après il y a parfois de bonnes surprises, mais il y en a souvent des très mauvaises. Hein, ouais.
On termine ces screenings avec la dernière série présentée, c'était hier soir assez tard, hein, vers 23h30, Sex, Love and Secrets, qui raconte l'aventure de jeunes vingtenaires, on va dire, enfin qui sont plus proches de la trentaine que de la vingtaine, et qui ont bien sûr des problèmes. Bon, heureusement, ils vivent en Californie, donc il y a tout le temps le soleil, il fait beau et tout.
Donc
c'est
ils
génial,
peuvent dormir dehors.
Bon, il y a pas mal de sexe, c'est-à-dire c'est l'opposition entre deux des personnages principaux. L'un qui est maqué avec une nana et l'autre qui se dit qu'il peut pas être maqué avec des nanas parce qu'on est, on n'a pas assez de temps pour vivre. Donc faut profiter de tous les plaisirs de l'hiver et tout. Faut surtout pas s'attacher parce que sinon tu vas en louper des pleins quoi. Voilà, interprété par Eric Balfour, hein, d'ailleurs qu'on voit encore et qui est vraiment très très convaincant, mais également interprété par Denise Richards, qui là joue le rôle de la méchante, hein, c'est-à-dire c'est elle qui va venir foutre la merde dedans. Et en fait, si ce petit monde s'amuse un petit peu, le héros principal et travaille le jour dans une espèce de café, enfin de snack, on va dire à l'américaine, hein, et le soir joue dans un groupe de rock et tout. Sa copine a un secret caché, son ex-amant et tout. Qui normalement est mort, et on voit apparaître en guest star Roberto Lazzardo, comme d'habitude, pour jouer le rôle du méchant tatoué chauve. Tu vois qui c'est, Roberto Lazzardo?
Je crois qu'on l'a vu dans
le méchant dans Nip Tuck. Oui. Voilà, bon, lui dès qu'il y a un rôle de méchant un petit peu hispanique, pas de problème, c'est lui, hein. De toute façon, il a payé pour, et qui vient donner les cendres de son ex et tout. Enfin bon, il y a des petits secrets comme ça qui rôdent un petit peu. Bon, c'est filmé, vraiment c'est très récent comme série, ça date de c'est où ça 2005, c'est assez récent, mais c'est vraiment filmé moderne, hein, tu vois, quoi. C'est-à-dire bon, un petit peu clip avec des, c'est haut de gamme, hein, quand même. Hein. C'est vraiment, on voit qu'ils ont fait des efforts. Il y a du pognon derrière, mais bon, c'est un petit peu chiant parce que bon, il y a une espèce de voix off qui veut être un petit peu la morale, si tu veux, quoi. Et bon, ça plombe un petit peu, quoi, l'ambiance, quoi. C'est un petit peu dommage pour ça. Mais bon, c'est quand même du haut de gamme, hein, Sex, Love and Secrets, avec des acteurs qui le font bien, quoi. Des actrices et des acteurs qui le font bien, quoi. Voilà donc pour ces screenings. Alors bon, et on peut voter donc pour ces screenings jusqu'à la mi. Il faut savoir qu'il y a une rediffusion de ces screenings ce soir à partir de minuit. Alors c'est le même ordre, hein, que jeudi et de vendredi. Alors minuit Stacked, suivi à minuit 30 de Veritas The Quest, à 1h25 Gwen Scott et à 1h55 de State Within. Et demain soir à 23h50 First Monday, puis à 0h40 Girlfriends, à 1h05 Mork and Mindy. Tu vois, c'est vachement tard, hein, pour cette pour Mork and Mindy. À 1h35 Summerman Shootout et à 2h05 Sex, Love and Secrets sur Série Club, bien sûr. Et les résultats donc à partir de lundi 20h45 sur Série Club pour savoir quelle sera la série qui sera diffusée en septembre prochain. On parle de la théma de Arte demain, qui est consacrée à Jack London. Ah, je pouvais pas laisser passer ça, hein, tu t'en doutes. Avec tout d'abord le bon film de Randall Kleiser, Cro-Blanc, avec Klaus Maria Brandauer et Ethan Hawke, de 91 à 20h45, suivi à 22h30 d'un documentaire Plus près des loups, histoire d'une femme qui va, eh bien, pas à la conquête, non, mais qui va un petit peu étudier les loups dans leur milieu naturel. Et à 23h10, le documentaire sur Jack London, l'enfant rebelle du rêve californien. À ne pas louper donc, c'est demain soir sur Arte.
She wore blue. Bluer than velvet was the night. Softer than satin was the light from the stars. She wore blue velvet. Bluer than velvet were her eyes. Warmer than May, her tender sighs. Love was all.
La version originale de Blue Velvet par Bobby Vinton. C'est celle qu'on entend dans le générique de fin du film Blue Velvet de David Lynch. Il ne passe pas, hein, cette semaine Blue Velvet, mais par contre, je vous ai choisi la semaine sur cinéma culte. Eh ouais, du culte, il y en a tout le temps, là. On parle tout le temps. Ouais, ça, c'est culte. Ouais, c'est trop culte. Alors, eh ben, on va faire la chaîne culte, carrément. Avec ce soir, eh ben, à partir de 19h05, Twin Peaks. Un autre truc de Lynch. On en est aux épisodes, ce soir, ce sera de l'épisode 8 à l'épisode 10 de la saison 1 de Twin Peaks. À 21h35 ce soir sur Ciné-Cinéma Culte, un making-of de Ciné-Cinéma. Puis à 22h, ils ont pas précisé lequel, à 22h05, Les Dernières Révoltées d'Hollywood, il y a un autre documentaire, et à 23h05, un grand film, un grand polar de Tavernier, en 81, Coup de torchon, extrait du bouquin de Thompson, le numéro 1000 d'ailleurs, hein, de la collection série noire, 1275 âmes de Jim Thompson, hein, qui est l'adaptation de Tavernier, moi je la trouve excellente. Noiret est excellent dedans. Eddie Mitchell, c'est une de ses premières apparitions au cinéma. Mmh. Il est excellent. Bon, Stéphane Audran, moi j'ai toujours apprécié, pas de problème. Enfin bon, vraiment très très bon film. Et à 1h15, le film de cul dont je vous ai déjà parlé il y a 15 jours, Nuit brûlante de Bertrand Barré, avec l'énorme Brigitte Lahaie. Demain soir.
Énorme, c'est pas si gros bonnet que ça.
Ouh, ça c'était du naturel au moins.
Oui, c'est vrai. Ah,
bon. Yeah. Demain soir, 20h45 sur Ciné-Cinéma Culte, Le Piège de John Huston en 73 avec Paul Newman, James Mason, Yann Balen et Dominique Sanda. Un peu zarbe comme film, mais ça se laisse regarder quand même. Hein, c'est l'histoire de deux espions, un soviétique et un ricain. Et ils se trouvent, au départ ils sont opposés, mais ils vont se retrouver ensemble pour échapper à un troisième qui essaie de les dégommer tous les deux. Et ils savent pas pourquoi. Et ils se posent des questions, quoi. Suivi de l'excellent film, c'est le meilleur de Sidney Pollack, Yakuza de 75 avec Robert Mitchum. Brian Keyes et Ken Takakura. Là c'est du grand Polak, il y a pas de problème. Et Mitchum, franchement, il fait très fort, hein. C'était déjà la fin, hein, pour Mitchum, il était déjà vachement vieux et tout. Hein, il faisait ça, bon, ok, comme d'habitude. Il a fait un film 2 ans ou 3 ans plus tard, encore excellent, hein, qui s'appelait Adieu ma jolie, hein, tiré du roman de Chandler. Mais là, Yakuza, très très bon, hein. Lundi, sur Ciné Cinéma Culte, à 20h45, L'Acrobate de Jean-Daniel Paulet de 75, avec Claude Melki, Laurence Bruc, Guy Marchand et Marion Gamme, suivi à 22h25 d'une coproduction anglo-allemande de 80 de Christopher Petit, Radio On, avec David Beams et Lisa Kreutzer. Mardi prochain, à 20h45, Panic à Needle Park de Jerry Schatzberg de 71. C'est le film dans lequel on a vu apparaître Al Pacino. En 71, hein, ça raconte l'histoire d'un couple de petits escrocs de bas étage, Al Pacino et Kathy Wynn. Et Kitty Wynn qui vont se lancer dans le trafic de dope, mais vont également tomber dans la dope. Donc ça raconte un petit peu l'histoire, la déchéance de ce couple. C'est l'une des premières apparitions dans un rôle principal d'Al Pacino, ça date de 71. Donc là, je veux dire, Scarface, il est encore loin, quoi. Loin, loin, loin. Mais Pacino est déjà bon, quoi. C'est mardi prochain à 20h45. Suivi à 22h35 de Bertrand Burgala, un cinéma hors saison.
Oh, Burgala?
Ouais. Mercredi prochain sur Ciné Cinéma Culte, à 20h45, Mean Street de Scorsese, justement, on en parlait. Un des premiers Scorsese, enfin le premier qu'il a fait connaître, on va dire, en 73, suivi de la rediff de Panic à Needle Park à 22h35, suivi à 00h30, mercredi prochain, du film Easy Rider. Jeudi prochain, le jeudi sur Cinéma Culte, à 20h45, c'est film érotique, hein, puisque bon, bah, je vous avais parlé de Nuit Brûlante il y a 15 jours. C'était justement le jeudi à 20h45 qui passait. Là, il s'agit d'un film franco-suédois érotique de Torny Wickman de 73, Les Impurs, qui est moins 16, hein. Donc c'est érotique, pas porno. À 22h05, c'est Pas tout à fait la vie dont j'ai rêvé, un film de Michel Piccoli de 2005. Et il faut signaler que jeudi prochain, sur CinéFX à 21h, si vous l'avez jamais vu, regardez-le, ça vaut le coup. En plus, sur CinéFX, ça va être en VO, donc ça va être encore mieux. C'est Captain Orgasmo, le film.
Et il n'a pas son VO maintenant sur
CinéFX, version multilingue. Hein. Ah oui.
Il y a une version multilingue de FX. Oh merde.
Ah, sur CinéFX, oui. Captain Orgasmo. Non, je confonds avec Sifi, excuse-moi.
Il me semblait aussi, mais il y a des fois il passe en sous-titré, mais pas tout le temps.
Non, parce que là il passe à 21h en prime
time. Parce que tu te doutes bien que Alceste ou les Hercules, je me les materais en VO, quoi, italienne.
Donc Captain Orgasmo, c'est le film de 98 de Trey Parker et de Matt Stone, c'est-à-dire South Park, dans lequel Trey Parker interprète le rôle d'un mormon qui vient s'installer en Californie avec sa femme et qui va se planter complètement et qui va travailler dans le business. Du porno.
Ouais.
C'est magnifique, ça vaut le coup. C'est la même veine que South Park, de toute façon, hein. Ça pète dans tous les sens et là ils vont vraiment très très loin. Hein. Captain Orgasmo, c'est sur CinéFX jeudi prochain à 21h. Et on termine la semaine sur Cinéma Culte vendredi prochain à 21h. Blue Collar de Paul Schrader, avec Richard Pryor, Harvey Keitel, Yaphet Kotto et Begley Judor. Alors c'est un film qui est aussi pas mal, de Schrader, dans lequel Pryor, Keitel, Yaphet Kotto, ils sont employés dans une boîte, dans une usine et tout. Et puis bon, ils décident, comme ils ont pas assez de pognon, hein, comme tous les ouvriers, bah de braquer carrément la caisse du syndicat dans l'usine. Et en braquant cette caisse, en braquant le pognon, ils vont se rendre compte que bah il y a pas que le pognon, mais il y a également des papiers qui devraient pas être là et qui montrent qu'il y a des petites malversations qui sont commises à l'intérieur de l'entreprise. Mince alors, c'est pas mal, ça vaut le coup. C'est un assez bon film, hein, de toute façon. Quoi, c'est vendredi prochain 21h, suivi à 23h de Bombón el Perro, un film argentin de Carlos Sorín avec Juan Villegas et Walter Donano. A signaler que Carlos Sorín est le cousin de Pablo Sorín, qui est joueur de foot de l'équipe, qui est capitaine de l'équipe de foot d'Argentine et qui a joué au Paris Saint-Germain, Sorín. Carlos est son cousin. Donc, et avec Juan Villegas et Walter Donano, il se raconte l'histoire d'un mec qui est au chômage et pour et sa boîte pour quand elle le fout au chômage, bah pour le remercier, elle lui file un chien. Et donc lui, il décide d'inscrire ce chien à des concours canins. Voilà, c'est le thème du film. Donc Bon Bon El Perro, vendredi prochain à 23h sur Cinéma Culte. Et c'est tout pour aujourd'hui.
Et tu as fini ?
Absolument.
D'accord, ok. Un petit instant. On va enchaîner. Dans ce cas-là, zou. Et je suis déçu, il n'y a pas de Thomas là sous la main, mince. Bon, et ben, c'était le supplément week-end numéro 153 sur Radio FMR. Donc, pour le résumé, désolé, je n'ai pu le faire. Là, on était en train de se battre avec la technique. Mais bon, ceci dit, si vous avez manqué le début de l'émission, vous pouvez la réécouter en intégralité sur le site internet de l'émission. Vous tapez supplément week-end sur votre site web supplementweekend.tk sans accent ni tiré. Ou cherchez supplément week-end MP3 ou supplément week-end FMR, voire supplément week-end tout court sur Google. On arrive en tout premier. Et puis voilà, vous pouvez poser vos questions, laisser vos commentaires, fouiller dans nos archives et plein d'autres choses. Pour cela, n'hésitez pas sur le site web. La suite des programmes, de suite, c'est du sport. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même fréquence, il est super tard. Il est 13h38. Donc, je vous souhaite, ciao, bye bye, un joyeux au revoir et je vous souhaite un super nouvel an cambodgien. Ciao à vous, plus.